Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightnartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1651, en pleine période des guerres civiles anglaises, Léviathan est le grand traité de philosophie politique de Thomas Hobbes. Cet ouvrage ne se limite pas à défendre un pouvoir fort, il propose une explication systématique de la manière dont des individus mus par leurs désirs, leurs craintes et leurs raisonnements peuvent former un ordre politique durable. Hobbes part d'une analyse matérialiste de l'être humain et de ses passions pour examiner le langage, la connaissance, la morale, le droit, la religion et l'État. Son problème central est précis: comment échapper à l'insécurité et à la guerre civile sans dépendre d'une harmonie naturelle entre les hommes. Sa réponse est le pacte par lequel des personnes autorisent une puissance souveraine à agir en leur nom. La traduction française intégrale de Gérard Méré rend accessible un texte exigeant, dont les thèses sur la souveraineté. L'obéissance et la paix continuent de structurer les débats sur les fondements de l'autorité politique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'état de nature comme modèle de l'insécurité humaine, l'état de nature chez Hobbes ne doit pas être lu comme le récit certain d'une époque primitive. Il constitue plutôt une expérience de pensée destinée à montrer ce qui arrive lorsque aucune autorité commune ne peut imposer des règles. Les êtres humains y sont approximativement égaux dans leur capacité à se nuire, y compris lorsque leurs forces physiques diffèrent. Cette égalité nourrit la défiance. Chacun peut craindre que les autres s'emparent de ses biens, limitent sa liberté ou menacent sa survie. La rareté, la compétition pour les ressources, la recherche de réputation et l'incertitude sur les intentions d'autrui créent alors une disposition durable au conflit. Hobbes ne soutient pas que tous combattent sans interruption. Son idée plus fine est que, sans garantie de sécurité, chacun a des raisons rationnelles de se tenir prêt à la violence préventive. Il n'existe ni propriété stable, ni justice effective, car ces notions supposent déjà des lois applicables. L'image d'une vie isolée, misérable et brève condense cette absence de sécurité. Le diagnostic hobbésien déplace ainsi l'attention de la vertu individuelle vers les conditions institutionnelles de la confiance. La paix ne résulte pas spontanément de bonnes intentions, elle exige une force publique capable de rendre les engagements prévisibles et crédibles. Deuxièmement, le pacte social transforme une multitude en personnes politiques. La sortie de l'état de nature repose sur le calcul raisonnable des individus. La peur de la mort violente et le désir d'une existence plus sûre conduisent les personnes à rechercher la paix lorsque celle-ci est possible. Hobbes formule des lois de nature qui orientent cette recherche, notamment la disposition à renoncer à certains droits à condition que les autres fassent de même. Mais une simple promesse ne suffit pas. Si chacun demeure juge de ses intérêts et conserve le pouvoir de punir, la méfiance détruit rapidement l'accord. Le contrat décisif n'est donc pas conclu entre un peuple et un dirigeant. Il est passé entre les individus qui s'autorisent mutuellement à reconnaître comme leurs les actes d'une même personne ou assemblée chargée de les représenter. Cette autorisation produit le Commonwealth ou République au sens d'État politique. Le souverain reçoit ainsi une personnalité artificielle, il exprime l'unité de volonté auparavant dispersée. Cette construction explique pourquoi Hobbes distingue la multitude, simple rassemblement d'individus, du peuple organisé par la représentation. Elle éclaire aussi sa conception de l'obligation politique. Obéir aux lois n'est pas seulement céder devant une force étrangère. C'est respecter l'institution que les contractants ont rendue possible afin de bénéficier d'une paix commune. La validité pratique du pacte dépend néanmoins de la protection que cette unité rend possible. Troisièmement, une souveraineté indivisible pour empêcher le retour de la guerre civile. Hobbes conclut que le pouvoir souverain doit être suffisamment étendu et indivisible pour remplir sa fonction protectrice. Il peut être exercé par un monarque, une assemblée restreinte ou une assemblée plus large, mais la forme importe moins que l'unité effective de la décision finale. Partager la souveraineté entre des autorités rivales revient, selon lui, à recréer les conditions de l'état de nature au sein même de la cité. Lorsque nul ne sait quelle instance tranche définitivement une loi, une guerre ou une interprétation juridique, les factions peuvent se présenter comme les vrais défenseurs du droit. Le souverain doit donc fixer les règles civiles, juger les différends, décider de la défense et disposer des moyens d'exécution. Cette thèse explique la réputation d'absolutisme de Hobbes. Toutefois, son argument principal n'est pas l'exaltation morale d'un chef, mais la nécessité fonctionnelle d'un arbitre public. La souveraineté est légitime que parce qu'elle répond aux besoins de sécurité qui a motivé le pacte. Hobbes refuse aussi de faire du souverain un contractant ordinaire, car un contrat avec lui supposerait une instance supérieure capable de l'arbitrer. Sa limite essentielle est concrète: si la protection disparaît durablement, l'obligation d'obéir perd son fondement. Cette articulation entre autorité très forte et finalité sécuritaire demeure l'un des points les plus discutés du livre. Quatrièmement, les passions, le langage et la raison au fondement de l'ordre civil, Léviathan se distingue des traités politiques qui commencent directement par les institutions. Hobbes consacre une large partie de son ouvrage à la nature humaine, aux sensations, à l'imagination, au langage et aux passions. Il décrit l'esprit de manière matérialiste, penser revient à enchaîner des mouvements et des signes. Tandis que raisonner consiste à calculer les conséquences de définitions et d'actes. Cette approche sert sa politique. Les êtres humains ne sont pas naturellement sociables, au sens où leurs intérêts convergeraient toujours. Ils recherchent ce qui leur paraît bon, redoutent ce qui menace leur conservation et peuvent être entraînés par la vaine gloire autant que par le besoin. Pourtant, ils sont capables d'anticiper les dangers et de comprendre l'avantage d'une paix réglée. Le langage rend les conventions possibles, puisqu'il permet de nommer, promettre et formuler des lois. Il peut aussi nourrir le désordre quand des termes mal définis, des discours trompeurs ou des doctrines rivales transforment les conflits d'opinion en conflits de pouvoir. La politique hobbésienne ne sépare donc pas la stabilité des institutions dites de la discipline intellectuelle. Des définitions publiques, des lois connues et une autorité d'interprétation réduisent l'incertitude qui alimente la défiance. Cette ambition de déduire l'état d'une analyse des mécanismes humains donne au livre sa cohérence inhabituelle et sa portée fondatrice pour la pensée politique moderne. En dernier lieu, le contrôle du religieux comme réponse aux divisions doctrinales, la dernière dimension majeure de Léviathan, concerne la religion et le pouvoir ecclésiastique. Hobbes écrit dans un contexte où les conflits théologiques sont étroitement liés aux luttes civiles et institutionnelles. Il ne traite donc pas les croyances comme une affaire purement privée. Dès lors que des autorités religieuses prétendent imposer des obligations contraires aux lois civiles ou posséder un pouvoir autonome de commandement, elles peuvent, selon lui, diviser l'allégeance des sujets. Hobbes soutient que l'autorité souveraine doit pouvoir décider publiquement de ce qui peut être enseigné et pratiqué dans le cadre civil. Son objectif est de prévenir la coexistence de commandements concurrents, non de fournir une simple critique de toute foi. Il consacre au contraire de longs développements à l'interprétation des Écritures, à la prophétie, aux miracles et à la signification du royaume de Dieu. Sa lecture tend à limiter les prétentions politiques des institutions religieuses et à subordonner les controverses doctrinales à la paix civile. Cette partie est décisive pour comprendre la radicalité de l'ouvrage. L'État hobbesien ne garantit pas seulement les contrats et la sécurité matérielle. Il organise les conditions publiques dans lesquelles les désaccords ne dégénèrent pas en guerre. Elle soulève aussi une difficulté durable, celle de la compatibilité entre unité politique, liberté de conscience et pluralisme religieux. Les critiques modernes de Hobbes se concentrent souvent sur cette tension sans pouvoir ignorer la force de son diagnostic sur les effets politiques des autorités concurrentes. En conclusion, Léviathan s'adresse en priorité aux lecteurs de philosophie politique, d'histoire des idées, de droit public et de théorie de l'État. Il intéressera aussi ceux qui veulent comprendre l'origine de notions aujourd'hui familières telles que contrat social, représentation, autorité légitime, sécurité collective et monopole de la décision publique. La lecture demande de la patience, car Hobbes bâtit son raisonnement à partir d'une théorie de l'être humain et accorde une place considérable aux questions religieuses. Cette ampleur est précisément l'un de ses bénéfices intellectuels. Le lecteur voit comment une conception des passions, du langage et de la peur peut conduire à une théorie complète des institutions. Le livre ne fournit pas un programme immédiatement transposable aux démocraties contemporaines. Sa défense d'une souveraineté très concentrée, notamment dans le domaine religieux, appelle une lecture critique attentive. Mais il oblige à poser avec rigueur une question que des approches plus idéalistes esquivent parfois: quelles garanties rendent la coopération possible entre des personnes qui ne partagent ni intérêts ni convictions. Par rapport à d'autres théories du contrat social, Hobbes se distingue par la netteté de son point de départ, la centralité de la sécurité et son refus de supposer une sociabilité naturelle, là où certaines traditions fondent l'ordre politique sur les droits. La vertu civique ou la volonté générale, Léviathan part de la vulnérabilité réciproque et de la nécessité d'une autorité capable de trancher. Cette cohérence systématique explique son statut de texte incontournable, même pour les lecteurs qui rejettent ses conclusions. Si vous souhaitez soutenir T. Hobbes, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.